La démocratie et l'école, ça va ensemble depuis le début.
En gros, on a fait des réunions avec des députés et les délégués de l'école, donc ceux qui représentent leur classe.
Si déjà l'école pouvait fonctionner de manière démocratique, pour moi, c'est vers là qu'on doit tendre.
La connaissance sans éthique, ça n'a pas de sens.
La première. Démocratie en question, Arnaud Reusson.
Pour cet épisode bonus de Démocratie en question, nous prenons la direction de l'école. L'école comme lieu d'apprentissage, d'éveil à la citoyenneté, mais aussi comme lieu d'expérience de la démocratie et de la vie en société. Alors, quelle place pour l'école dans nos démocraties et quelle place pour la démocratie à l'école? C'est la question que l'on va prendre le temps d'explorer.
Épisode 9. Et la démocratie à l'école?
En ce petit matin du mois de juin, nous avons rendez-vous à 8h30 à Anderlecht, sur le campus du CERIA, à l'Institut Émile Grison. Une école secondaire technique et professionnelle où nous attend Olenka Tchernovski, en charge du cours de philosophie et de citoyenneté.
Donc ici, on est sur le campus du CERIA, à l'Institut Émile Grison. Il y a plusieurs bâtiments, donc les élèves sont répartis un peu sur plusieurs bâtiments dans le campus. Ici, on va avoir cours avec une classe de 5e technique boulangerie, qui ont normalement cours dans ce bâtiment-ci. Mais moi, je propose qu'on fasse cours dehors, parce qu'il fait beau, c'est agréable. Donc si ça vous va, on va les emmener dehors. C'est une petite classe, ils sont 7 élèves. Voilà, et c'est le dernier cours que j'ai avec eux. Donc je vais un peu à la fois terminer la matière, à la fois faire une évaluation et à la fois leur donner l'occasion de parler avec vous. Donc voilà, ça va être un cours un peu hybride, on va dire, comme toute l'année l'a été. Donc on est habitué à ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec
Pour ce dernier cours de l'année, Olenka Tchernovski aborde avec ses élèves l'enjeu de la critique des sources dans la jungle des informations auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés. Un cours en plein air, sur un banc, à l'ombre d'un arbre, avec en arrière-fond le chant des oiseaux et un petit concert de marteau-piqueur.
On se met comme hier, en demi-cercle.
Les élèves se penchent sur les méthodes de raisonnement scientifique, l'induction, la déduction, la réfutation.
Explique juste le schéma, tu vois le schéma ?
Oui, fait établi par l'observation. Donc on observe des choses et de ça on fait une induction. Et alors ça nous mène à des lois et des théories. Et de ces lois et des théories, on va créer une déduction. Et ça va nous donner des explications ou des prédictions.
Donc c'est parfait ce que tu as dit. On a des faits qu'on a établis par l'observation, on les additionne, on voit, ok, cette fois-là ça marche, cette fois-là ça marche, cette fois-là ça marche, donc ça doit marcher. Okay, par exemple, un médicament qu'on teste sur une personne, s'il fonctionne pour guérir telle maladie, on le teste sur une autre personne, si ça marche, c'est génial. Et on finit par se dire, donc ce médicament marche sur toutes les personnes atteintes de cette maladie. Et puis, si un jour on a quelqu'un qui a cette maladie, eh bien tout simplement, on va l'utiliser ce médicament. Donc là, on procède par déduction. Il y a un souci à ça, et c'est l'histoire de la dinde. Tu peux l'expliquer, Célia ?
Bah, je crois que c'était une dinde qui, tous les jours, elle va manger. Enfin, elle sait que quand elle arrive à cette heure-là, elle va recevoir ses graines. Et un jour, bah, on la tue. Du coup, bah, ça prouve que ça ne marche pas. Enfin, qu'elle ne reçoit pas toujours à manger, quoi.
Donc, elle accumule des expériences, elle accumule des observations, elle finit par arriver à une loi, elle se dit « je suis tous les jours nourrie à telle heure » et il suffit d'une fois, le jour où on la zigouille, pour dire bah, « en fait, c'était tous les jours, sauf le jour de Noël, parce que la dinde, elle est mangée ce jour-là ». Comment est-ce qu'on appelle cette contradiction ? Il suffit d'une fois.
La réfutation.
La réfutation, donc c'est... La contradiction, il suffit de réfuter avec un seul argument pour que tout soit balayé. Après, on peut affiner. On peut dire donc qu'elle est nourrie tous les jours de l'année, sauf le jour de Noël. Donc il y a toujours moyen d'affiner. Mais il suffit d'une fois pour balayer effectivement une théorie.
L'objectif ici, donner une sorte de boîte à outils aux élèves pour pouvoir classer les niveaux de preuves des moins crédibles aux plus fiables.
On avait parlé aussi la fois passée de l'irréfutabilité. Vous vous rappelez, avec l'exemple de la secte ?
Ah oui. C'était... Il y avait une secte et ils se réunissaient autour d'une statue ou un monument, je ne sais plus c'était quoi. Et s'ils fermaient tous les yeux, alors la statue, elle ouvrait les yeux ou elle se réveillait ou bougeait.
Elle s'agenouille, ouais.
Oui, mais en fait, on ne savait pas vérifier que c'était vrai ou faux parce que si quelqu'un ouvre les yeux, alors on va dire que comme tout le monde n'a pas fermé les yeux, elle ne va pas s'agenouiller. Et du coup, on ne peut jamais prouver que c'est vrai vu qu'on ne sait pas le voir. Ou...
Et dans l'énoncé même, on a l'irréfutabilité, l'impossible de vérifier que ce soit vrai ou l'impossible de vérifier que ce soit faux. Et donc, une théorie irréfutable, une affirmation irréfutable, c'est simplement pas de l'ordre de la science. C'est de l'ordre de la croyance, il n'y a pas de souci, on peut y croire et c'est très bien, mais on ne peut pas affirmer ça comme... on ne peut pas le prouver.
Et l'enjeu est de taille. À l'heure où sur les réseaux sociaux fleurissent des théories fantaisistes, accréditant parfois l'idée de grands complots cachés, il s'agit pour notre enseignante non pas de dire aux élèves ce qu'ils doivent penser de ces théories, mais plutôt de leur donner des clés pour un travail critique.
Vous voyez le page 9. C'est tout des liens entre les chiffres du 11 septembre 2001. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 ?
Attentat.
Ok. Et donc, le texte commence par « à l'appui de cette théorie », entre guillemets. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais tu peux lire tous les faits suivants.
La date de l'attaque est le 9 du 11, et donc 9 plus 1 plus 1, ça fait 11. Ensuite, le 11 septembre est le 254e jour de l'année, or 2 plus 5 plus 4 égale 11. Le code téléphonique de l'Irak et de l'Iran est 119, soit 1 plus 1 plus 9 égale 11. Le premier vol à frapper les tours était le vol 11 American Airlines.
Vous comprenez qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi tous ces faits ?
Des sortes de théories du complot pour dire que tout était lié avec le chiffre 11.
Tout est lié autour du chiffre 11. Le but, et c'est une théorie du complot, mais en fait, elle illustre quel complot ?
Un peu que l'attentat était prévu le 11.
Ma question est un peu piège, parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. En fait, on ne sait pas. Donc, en fait, ce sont des coïncidences. Alors que l'attentat, il a été réalisé par Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, tout ça, ça a été établi. Okay ? Mais alors, il y a des gens qui vont quand même aller chercher des coïncidences par rapport au chiffre 11, toutes celles que tu as citées, et tu as vu, ça continue encore deux pages. On ne sait pas très bien vers où ça va. Ça ne prouve rien. Le but, c'est quoi ? C'est de semer le trouble. Où les gens se disent « Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Ah, il y a quand même un truc, là !» On pourrait faire l'exercice, on va pas le faire maintenant, mais on pourrait faire l'exercice où on s'amuse sur trouver toutes des coïncidences. On pourrait faire, je sais pas, même avec vos numéros de téléphone, vos dates de naissance, je suis sûre qu'on peut trouver tous des liens qui prouvent que vous deviez être dans la même classe, que c'était écrit depuis votre naissance. Je suis sûre qu'il y a moyen de le faire.
Ouais.
Parce qu'avec des chiffres comme ça, on leur fait dire n'importe quoi.
Et le cours se poursuit autour, notamment, des variables de confusion. Comment expliquer, par exemple, que le nombre de divorces et la consommation de margarine dans le Maine aux États-Unis évoluent au même rythme ? En fait, il n'y a aucun rapport. L'occasion de préciser qu'une corrélation ne veut pas dire causalité.
Voilà. Tu as raison. Ici, pour le coup, c'est complètement du hasard. Donc parfois, on a des corrélations. Parfois, il y a des variables de confusion. Ici, c'est juste le pur hasard. Et il y a un site comme ça, c'est là-dessus que j'ai trouvé ça. Je vous ai mis la référence. Il utilise des grosses bases de données et il trouve toutes des valeurs démographiques qui ont l'air d'évaluer ensemble. Et donc, ils peuvent s'amuser à faire des corrélations, mais qui ne sont en fait en rien des causalités.
Au bout de 40 minutes de ce qui est pour les élèves le dernier cours de philo et de citoyenneté de l'année, vient le moment de l'évaluation, dans un mode bien particulier qui ne va pas manquer de déstabiliser un peu les élèves.
On ne dit pas d'examen, directement évaluation.
Ici, on va faire une auto-évaluation. Je vais vous dire 10 phrases. Pour chacune des 10, vous allez vous mettre 2 points si vous pensez que c'est acquis. Donc chaque phrase, ça va être « je suis capable de ». Si vous vous dites « oui », vous vous mettez 2 points. Si vous vous dites « non », ce sera 0. Si vous dites « ce sera 1 ». Ce sera les points du bulletin pour la dernière période.
On s'évalue.
Donc c'est vous qui vous auto-évaluez.
On va mettre 10. On va mettre 2 partout. Hein, bon.
Toi, tu veux te mettre deux partout sans même entendre les phrases. Ce qu'on va faire, hein, Célia, on va quand même faire l'exercice.
Oui.
Après, tu peux faire le calcul. Après, okay. Si tu veux encore modifier ton point au bulletin, tu peux.
Ça va.
Mais yes. Pour l'instant, on va le faire sérieusement. Première phrase. Je suis capable d'évaluer le niveau de preuve d'une affirmation. Je suis capable de distinguer une publication scientifique par rapport à un autre type de publication. 3. Je suis capable d'expliquer le doute méthodique de Descartes.
On est zéro.
C'est du mensonge.
4.
Enfin, quoi que, oui, non.
Je suis capable d'expliquer le texte d'Aristote.
Madame.
8. Je suis capable d'expliquer les biais de confirmation. 9. Je suis capable d'expliquer les biais d'interprétation. 10. J'ai participé activement au cours.
Ouais.
Ça oui, pour une fois. C'est le seul cours où on participe.
Et le résultat a de quoi surprendre. Ce matin-là, aucun des élèves présents ne va se donner le maximum. L'un d'entre eux, après comptabilisation de ses points, va même s'octroyer un maigre 11 sur 20.
Il y a un problème dans ma... Est-ce que je sais bien calculer déjà ?
Tu rajoutes des petits 1 comme ça.
Non, non, là j'ai 0 et là j'ai mis 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Oh ouais, force hein. Rajoute un 2 ici et un 2 là.
J'ai eu 16. 16, madame.
16.
L'enseignante propose également aux élèves de se prononcer sur la cote à attribuer aux deux absents, ce qui donne lieu à d'intéressants débats sur ce qui est juste ou pas à leurs yeux.
Qu'est-ce que je mets comme point à Théo et Cyril ?
Bah, ils sont pas présents.
Si c'est absent, je vois un petit 60%.
Ouais. Mais t'es méchant.
En vrai, Cyril a beaucoup participé. Hein.
Ouais. Mais non, mais Cyril n'était pas beaucoup là pendant ce cours-là, vu qu'il passait ses qualifs non évalués.
En soi, on ne sait pas les évaluer nous-mêmes, c'est pas à nous de juger, ça vous.
Il y a d'autres possibilités. Hein. Je peux aussi faire la moyenne de l'année pour eux.
Ah bah, oui. C'est bien, ça.
81 pour Cyril, 75.
Ouais, c'est bien, ils ont plus que 60, hein. C'est bien.
C'est bien ?
Ouais.
Vous vérifierez avec eux et vous me direz. De toute façon, on se voit en histoire la semaine prochaine.
C'est vrai.
Nous voilà donc déjà avec deux facettes de l'enjeu démocratique à l'école. L'éducation à la citoyenneté, l'éveil de l'esprit critique, mais aussi l'expérience démocratique. L'expérience du débat, de la recherche de consensus sur un enjeu aussi sensible que les points à accorder aux uns et aux autres. Je profite d'une pause pour débriefer un peu tout ça avec Olenka Tchernowski et lui demander au fond comment elle conçoit l'enjeu de son cours de philosophie et de citoyenneté.
La spécificité vraiment du cours de philo et citoyenneté, qui se fait pas vraiment dans les autres cours, c'est vraiment construire une pensée. Parce qu'en fait, à l'école, on nous transmet des connaissances, on nous apprend à les traiter, à les transformer, à les appliquer pour la société, et c'est nécessaire, et c'est génial, et c'est le but du cours de français, de maths, de sciences, de géo, etc. Mais on n'est pas tellement entraîné à réfléchir sur ce qu'on apprend, à penser le bien, le mal, le juste, le pas juste, le beau, le bon, enfin... Et donc, prendre, en fait, le recul philosophique sur toutes ces questions, la démarche philosophique, c'est vraiment questionner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, aller vraiment au fond des choses, leur donner du sens... Voilà, tout ça, c'est des démarches philosophiques qu'on essaye à notre niveau, à notre échelle, dans les possibilités de nos compétences, de nos moyens, etc., de faire en philo et citoyenneté. L'exemple ici qu'on a fait avec l'évaluation, c'est ça aussi. C'est que ben voilà, le cadre scolaire, il est très contraint. On doit terminer avec une note pour chaque élève sur 100. Enfin, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de penser ça, de réfléchir à ça, de voir quel sens ça a et d'impliquer les élèves dans cette réflexion.
Et sur l'enjeu de la place de l'école dans la démocratie et de la démocratie dans l'école, elle en appelle à une forme de cohérence.
Il faut faire ce qu'on dit. C'est-à-dire si déjà l'école pouvait fonctionner de manière démocratique, parce qu'enseigner la démocratie c'est bien, penser la démocratie c'est bien, mais si déjà on pouvait faire à tout niveau, essayer d'être le plus démocratique, c'est-à-dire impliquer les élèves au maximum dans l'élaboration du règlement de l'école, éventuellement dans l'évaluation telle que je l'ai dit, dans la vie scolaire, dans les activités scolaires, dans la réflexion sur tout ce qu'on fait, pourquoi, etc. J'ai l'impression que ça, ce serait déjà, et ça se fait d'ailleurs, à petite, moyenne, grande échelle, en fonction des écoles, en fonction de plein de choses. Voilà, pour moi, c'est vers là qu'on doit tendre.
Pour poursuivre la réflexion sur ces enjeux, on a fixé rendez-vous à l'un des promoteurs de l'école démocratique, de l'école citoyenne. Il s'appelle Bruno Derbey, sociologue, philosophe et surtout acteur de changement dans les écoles elles-mêmes. Il nous fait d'abord cette réflexion.
La démocratie et l'école, ça va ensemble depuis le début. D'ailleurs, c'est pas pour rien si nos écoles s'appellent Athénée, lycée. Ce sont des mots qui viennent de la démocratie grecque de l'Antiquité. Et c'est pas pour rien aussi si dès le départ de la démocratie, l'école et l'éthique de l'école a été en jeu, avec d'un côté les philosophes, de l'autre côté les sophistes qui jouaient du discours pour tromper. Et c'est en jeu d'avoir une école qui aide au final à avancer dans la connaissance, mais aussi à avancer dans une société qui fonctionne bien, et même à avancer pour que les gens se sentent bien. Et qu'ils progressent eux-mêmes dans leur vie, hein, qu'ils atteignent le bonheur, ça faisait aussi partie de l'idée initiale des Grecs. En fait, ça a toujours été un enjeu de l'école. Aujourd'hui, cet enjeu-là, il se passe plus entre sophistes et philosophes, il se passe entre programme et préparation de citoyens dans une société active, multiculturelle et démocratique. Et c'est un enjeu de tous les jours. Énormément d'enseignants vont dire « mais moi, je suis prof ». Je suis là pour enseigner des contenus, sans prendre vraiment la mesure à la fois que légalement on a une mission de former des citoyens actifs, mais c'est même plus que ça. La connaissance sans éthique, ça n'a pas de sens. Et on le voit d'ailleurs tous les jours, combien de très bons élèves deviennent des managers qui font beaucoup de mal. Et moi j'ai aussi eu des très bons élèves qui devenaient des terroristes. La question de la connaissance, sans se poser de la question du sens et de la société que l'on veut, en fait, c'est une question qui est un petit peu celle d'un train qui fonce à toute vitesse vers un mur. Et donc, la mission de l'école, c'est à la fois de préparer les élèves à vivre dans la société dans laquelle on vit, et ça suppose la connaissance des compétences, des diplômes, mais c'est bien évidemment aussi de les aider à devenir les citoyens qui construiront la société de demain et de le faire en phase avec les valeurs démocratiques, en phase avec les démarches citoyennes.
Et parmi justement les moyens d'y arriver, il y a un dispositif souvent mobilisé par les écoles. C'est la délégation, la représentation. Les classes élisent par exemple des délégués qui vont siéger à un conseil de participation. À l'Institut Émile Grison, il y a même carrément un parlement dans lequel siégeait cette année Célia et Ludivine.
En gros, on a fait des réunions il y avait des députés et les délégués de l'école, donc ceux qui représentent leur classe. Et les députés, c'est ceux qui se sont portés volontaires pour participer à réunion.
Il fallait se proposer. Ouais, donc tout est fait par l'intention des élèves. Donc c'était des inscriptions qu'on faisait si on avait envie, quoi.
Et alors on a parlé cette année, pendant toute l'année, on a parlé de la tenue vestimentaire à l'école. À la fin, du coup, on a fait une réunion avec la direction pour leur demander de changer quelques règles et d'appliquer d'autres sanctions. Et là, c'est en cours de décision.
Pendant des semaines, les délégués et députés élus parmi les élèves ont confronté leurs points de vue, ont tourné dans tous les sens le règlement de l'école pour aboutir à des propositions très concrètes.
Dans les propositions, par exemple, par rapport au fait qu'il y a la mode, que ce soit plus axé en termes d'argent, parce que c'est ce qui coûte le moins cher pour le moment, on a demandé si c'était possible d'avoir des petits trous, enfin des petites griffes et des légères floches sur les pantalons. Mais en fait, on voulait juste garder en lien avec l'école. Ce qui est vrai, c'est qu'on est une école de service. On nous prépare à aller travailler avec des gens au quotidien. Et donc, on voulait garder ça sur la base, donc pas abuser, venir habiller comme on veut à l'école. Donc, tout a été fait pour qu'on fasse un pas vers la direction, mais que la direction puisse faire un pas aussi envers nous.
Et C'est facile, la démocratie. Enfin, je veux dire, sur le processus, parce que les discussions, les débats, le temps que ça prend, c'était quoi votre retour là-dessus ?
C'est pas toujours facile parce que ça reste notre émotion personnelle en tant que jeune. Donc, quand on défend notre idée, on a vraiment envie qu'elle soit pour. Et en fait, on se prend parfois des murs, loin des profs. En fait, on se prend souvent des murs entre nous. En fait, on va te donner une idée et il y a quelqu'un d'autre qui va rebondir et qui va dire oui, mais si. Et en fait, ça devient. Ce qui a été bien, c'est que tout le monde a mis sa fierté de côté et personne a mis son ego en avant et de se dire que c'est mon idée, donc je veux absolument qu'elle soit prise. Tout le monde a écouté tout le monde et c'était plutôt sympa.
Oui, c'est évidemment important de faire l'expérience de la délégation. Et c'est vrai qu'à Émile Grison, ils ont un très très chouette projet avec à la fois un conseil, avec un parlement, avec différentes manières de s'impliquer aussi en tant qu'élève ou en tant que délégué. Mais c'est important de dire que dans les écoles, il est possible de construire la délégation sans être aussi fortement dans le mimétisme par rapport à la démocratie représentative. Donc moi, j'aime beaucoup les élections avec un isoloir, avec toute une équipe qui doit organiser à la fois, et avec les candidats qui se préparent. Je trouve que le rituel des élections, c'est quelque chose qui parfois fait événement dans une école. Mais je trouve que c'est important de savoir que les élections sans candidats, c'est une manière de générer des délégués élèves qui sont souvent encore plus performant. Et donc le travail des élections sans candidat, où on va d'abord demander aux élèves c'est quoi être un bon délégué, quelles en sont les qualités. Et ensuite on va leur demander de réfléchir aux élèves autour d'eux qui auraient éventuellement ces qualités. Et puis avant même que qui que ce soit ne soit volontaire, on va suggérer ceux qui en auraient les qualités. Cette base de travail, c'est une base de travail qui est aussi hyper utile et qui ne fonctionne pas forcément avec un vote à la fin. Ça dépend des fois. Il y a aussi des écoles qui font de la lotocratie, qui partent du principe que tous les élèves doivent pouvoir être délégués et qu'il s'agit de les tirer au sort et puis accepter s'ils n'en veulent vraiment pas, de les former, de les aider à devenir de bons délégués parce que ça fait partie des missions de l'école. Alors moi, je ne dis pas qu'un système est mieux que l'autre, mais en tout cas, je ne voudrais pas réduire la question de la délégation à la question de la représentation et du vote. Et puis derrière ça, ben oui, parce que on est dans un système suffisamment massifié pour qu'en fait, ce soit nécessaire d'apprendre la délégation et de l'apprendre dans les deux sens. Ça veut dire à la fois dans le sens où on va désigner des délégués et ensuite on va les investir d'une mission, on va les accompagner, mais aussi dans le sens où, en tant que citoyen, on va ensuite retourner vers son délégué. En tant que délégué, on va retourner vers sa base. Parce que si la démocratie, c'est voter une fois tous les 5 ans, et après ça, entre ces deux moments-là, il n'y a plus d'interaction, on arrive à des choses qu'on reconnaît malheureusement trop souvent aujourd'hui, qui a un sentiment d'isolement et un sentiment de perte de sens. Et donc apprendre la délégation, c'est apprendre toute une série de mécanismes de communication, de compétences, de réunion et puis surtout de mise en projet. Parce que, et ça c'est le drame que l'on vit dans trop d'écoles, c'est qu'on apprend la délégation représentée à partir d'un vote, mais par contre, on se dit pas qu'elle doit donner des résultats concrets, des projets concrets, des choses tangibles aux yeux des délégués comme des autres de l'école, et au final, dans trop d'écoles, on apprend que ça sert à rien. C'est une des formes de tragédie, c'est une des tragédies de notre école et je pense aussi de notre démocratie, c'est que trop de gens apprennent que ça sert à rien d'être délégué déjà à l'école primaire et secondaire. Et alors après, il faut pas s'étonner s'ils s'impliquent pas en politique ou s'ils ont le sentiment que ça les concerne pas ou si ceux qui y vont quand même le font pour des raisons trop souvent individualistes et pas pour des raisons de bien commun. Et donc ça fait partie vraiment des gros enjeux d'apprendre la délégation et la représentation à l'école et on a du pain sur la planche en fait.
D'autant plus que pour Bruno Derbet, la démocratie à l'école, elle ne se résume pas à élire des délégués. Quand bien même on leur donne les moyens de participer, de débattre, d'élaborer de vrais projets, construire une école citoyenne est un enjeu bien plus large et transversal.
La démocratie, c'est bien plus que la question d'avoir des représentants. Il y a une autre dimension essentielle de la démocratie, qui est la justice. Comment rend-on la justice dans un système démocratique ? Et ce ne sont pas les représentants qui rendent la justice, c'est un pouvoir qui est séparé. Et dans la manière dont on va rendre la justice, il y a énormément de principes qui sont super importants. Est-ce que, par exemple, j'ai eu la liberté de m'exprimer sur ce qu'on me reproche ? Est-ce qu'on m'a aidé à me défendre ? Est-ce qu'il y a une enquête juste qui a été menée avant qu'une décision soit prise? C'est un travail qui est gigantesque. Et alors évidemment, quand on est enseignant ou éducateur sur le terrain, on dit « Mais quoi? On va nous mettre ça encore plus? On a déjà tellement de tâches !» Évidemment que quand on est sur le terrain, c'est pas facile. Ceci dit, si à l'école, je fais l'expérience d'une justice qui est une justice de hiérarchie, presque une justice de classe entre adultes et jeunes, et surtout d'une justice dans laquelle je ne suis pas suffisamment écouté, eh bien, il y a peu de chances que je me dise que je vive dans une société qui est juste et qui a une justice dans laquelle je peux faire confiance. Il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est que la confiance que l'on a dans la justice, c'est la confiance que l'on a dans une institution, l'État, et que le premier intermédiaire entre l'État et les jeunes, c'est l'école. C'est à l'école que je fais l'expérience de l'État, et tant que j'ai pas 18 ans, au final, c'est vraiment l'espace principal à la fois de ma vie et de ma relation avec l'institution. Et donc si l'école est un exemple d'une justice qui est très très loin des mots que l'on vend aux élèves, il faut pas s'étonner derrière qu'en fait, la confiance que l'on a dans le système pose problème. Alors derrière ça, en plus, lorsqu'on fait l'expérience contraire, on se dit mais on va vraiment gérer la justice, on va prendre le temps de l'enquête, etc. On se rend compte que c'est encore mieux de le faire avec les élèves. Et qu'en fait, la justice, c'est un espace aussi de participation pour les élèves. Il y a un problème, discutons ensemble de comment on va le résoudre. On se met ensemble, on regarde le cadre et les règles, ce qui est un autre grand chantier dans les écoles. Est-ce que vraiment on a des règles qu'on utilise? Et puis comment est-ce qu'on va réparer la situation? Et toute cette dimension à la fois de la médiation qu'on va retrouver aussi dans notre système légal, mais aussi de la recherche de sanctions réparatrices, qui est un mouvement bien en marche et, je l'espère, en progression dans notre système, c'est une dimension qui est passionnante de la participation à l'école et qui est tout aussi importante que la délégation quant à la relation des jeunes avec le système démocratique.
Allons maintenant pousser la porte d'une autre école, au profil bien différent de la première. Avec ma collègue ingénieure du son, Ariane Dufresne, nous avons rendez-vous à l'école Notre-Dame-des-Champs, à Uccle.
On se dirige vers le local de cours.
Ouais, donc vers à quoi est-ce qu'on va assister?
Donc on va assister donc au dernier cours de sciences économiques des 6e F. Donc c'est un cours où on va réviser une des parties de leur examen qui est sur un sujet de recherche qu'ils doivent mener. Okay. Donc on va se diriger ici vers la droite.
Voilà. Durant toute l'année, avec leur professeur Guillaume Grignard, les élèves ont travaillé par projet sur des enjeux économiques qui questionnent nos démocraties. Et c'est le dernier tour de révision avant l'examen.
Alors, peut-être on va commencer avec le premier sujet, donc les paradis fiscaux. Relevez un peu les doigts ceux qui travaillaient là-dessus. Voilà, 1, 2, 3.
Moi, pour mon travail sur les paradis fiscaux, je me suis vraiment concentrée entre la différence de la richesse d'un paradis, d'un pays, mais aussi sur la pauvreté de la population. Par exemple, le Panama, c'est un gros paradis fiscal, alors que 30% de la population est sous le seuil de pauvreté. Et du coup, je vais répondre à ma question, je vais développer ça un peu plus dans mon examen.
Et certains sujets plus que d'autres suscite le débat.
Non, en fait, moi, je vais juste réagir à Martin qui disait que les femmes, elles recevaient plus de... Enfin, elles allaient plus dans des métiers sociaux, mais même dans les métiers comme, je sais pas, en politique ou dans une grande entreprise ou très haut placée, enfin, les femmes sont quand même beaucoup moins prises que les hommes.
Mais c'est pas forcément dû au sexisme. Ça peut être aussi dû aux capacités qu'ont les personnes. Faut pas tout voir sur le sexisme. Je peux pas le mature, faut pas avoir peur.
En général, il y a souvent des femmes qui sont très compétentes et qui sont pas prises dans plein de trucs, uniquement parce que c'est des femmes.
Oui, après, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'est-ce que c'est être compétent. À partir du moment où ce sont les hommes qui construisent la compétence, forcément, tout cela est beaucoup plus à déconstruire. D'autres interventions sur les 9, il y en avait encore beaucoup d'autres. Hein. Ouais, vas-y.
Pour l'économie du genre, ma problématique, c'est pourquoi l'industrie du marketing joue-t-elle économiquement sur le genre? Et donc, il y a toute cette histoire de marketing genré, et j'ai commencé...
Je profite de l'occasion pour interpeller ces élèves sur ce qu'ils pensent de la démocratie, de notre système politique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne les fait pas rêver.
C'est, dans l'idée, c'est quelque chose de bien, mais quand on voit les faits, on voit très bien que le peuple, même s'il réclame et qu'il dit ce qu'il pense... Il n'a au final pas son mot à dire parce que c'est les personnes qui sont au-dessus qui décident. Même si elles sont élues par le peuple, Enfin, je veux dire, elle prône pas forcément toutes les idées que le peuple veut.
On va se l'avouer, on vit quand même dans une société où on choisit en général quelqu'un plus par un truc similaire à la propagande que vraiment des faits, qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Dans la société, il y a beaucoup de caractères pas informés et très illogiques en fait. Donc,
je pense que malheureusement, l'idée est belle, mais ça n'a jamais vraiment été exécuté parce qu'on ne peut pas entendre tout le monde à sa juste valeur. Enfin, même quand on voit, même à l'époque, mais vraiment à l'époque, genre à Athènes, tout ça, et c'est un peu inévitable parce que l'humain a ses propres désirs et c'est compliqué de représenter une panoplie immense alors que chacun a ses propres intérêts, chacun veut quelque chose, etc. En plus, la personne qui représente a ses propres intérêts aussi. Donc c'est hyper dur de contenter tout le monde et de prendre tout le monde en considération. C'est impossible, en fait, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est... Fatalement, le peuple ne peut pas être entendu et c'est inévitable, en fait.
Et quand on pose la question de savoir ce qui serait plus efficace alors comme système...
Moi, je ne sais pas si ce que je veux dire c'est controversé ou pas, mais je pense qu'il faudrait faire une espèce de mélange entre une démocratie et un régime où il y aurait une seule personne qui serait au pouvoir. Tout le monde donne son avis, etc. Et la personne qui est au pouvoir, c'est elle qui décide pour le bien de tous et en prenant en compte des avis de tous au lieu de faire des gens qui débattent, etc. Et en fait, ça ne marche pas. Et puis, ça prend 500 jours pour créer un nouveau gouvernement. Et puis, il y a des crises. Enfin, je veux dire, c'est mieux de mettre une personne au-dessus qui décide pour le bien de toute la population, je trouve.
Je pense que c'est la meilleure idée, entre guillemets. Mais je pense aussi que c'est impossible parce qu'il faudrait une personne, une personne honnête, ce qui est impossible, je pense, de base, et qui restera honnête. Et c'est ça le problème.
Cette aspiration pour une sorte de despotisme éclairé, elle était partagée par plusieurs élèves de la classe, notamment face à l'enjeu climatique et la nécessité de prendre des mesures fortes et impopulaires dans un délai très court. Et les récents chiffres de l'enquête commandée par la RTBF dans le cadre de Bye Bye la démocratie confirment que cette idée que le système fonctionnerait mieux avec un leader fort et moins de concertation vit auprès de plus d'un tiers des citoyens belges, avec une proportion encore plus forte chez les jeunes. Un constat qui ne surprend pas tout à fait Bruno Derbé.
Le fait que les élèves ne fassent pas l'expérience des processus citoyens et de leur efficacité à l'école est très clairement, à mon sens, une explication du fait qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Et donc forcément, surtout sur les enjeux climatiques, les jeunes, ils associent démocratie à représentation. Ils ne savent pas ce que c'est de le vivre vraiment. Ils voient que ça n'a pas marché. Ils ne voient pas quelles pourraient être les autres manières de vivre ces principes-là. Et ils peuvent avoir tendance plus facilement à jeter le bébé avec l'eau du bain. Sans savoir qu'en fait, oui, on peut faire la représentation autrement, que oui, la justice a un enjeu, que la dynamique citoyenne, c'est quelque chose de très porteur. Un des enjeux de l'éducation à la démocratie aujourd'hui, c'est de ne pas la mettre en boîte et de ne pas prévoir un format unique qui devrait être mis en place de la même manière dans toutes les écoles. C'est d'identifier des principes et à travers ces principes, de les cultiver avec les équipes, avec les élèves et de se rendre compte en fait, qu'il y a plein de belles manières de vivre ces valeurs citoyennes à l'école, mais en fait aussi dans la société.
Lorsque j'avais été le voir pour cette série, j'avais parlé avec l'écrivain flamand David Van Reybroek de ces jeunes qui semblaient déjà, pour certains, désabusés avant même d'avoir le droit de vote, ne croyant plus que notre système de démocratie représentative puisse être porteur de solutions positives. Et je lui avais demandé ce que lui, agitateur d'idées innovantes sur la démocratie, avait envie de leur dire. Voilà ce qu'il m'avait répondu.
Je ne dirais pas grand-chose. Je leur poserai quelques questions. Je dirais, dans ta classe, qu'est-ce que tu aimes le mieux si vous devez décider quelque chose? Que vous le faites avec toute la classe et que tout le monde a son mot à dire, ou que c'est la grande gueule qui le remporte? Et là, je pense savoir que les valeurs démocratiques vont être là. Parce que c'est assez universel. On aspire tous à une forme d'égalité. On aspire tous à être respectés. On aspire tous au bien-être collectif, en quelque sorte. Les grandes gueules, on n'aime pas trop. Est-ce qu'un Brésilien heureux va-t-il voter pour Bolsonaro? Est-ce qu'un Américain vraiment profondément heureux va-t-il attaquer la Capitole? Je crois pas. Est-ce qu'un Américain camionneur sans boulot dans le sud, quelque part, qui se sent frustré par un million de choses qui se passent dans la politique américaine, Est-ce que ce même Américain qui a eu la chance d'être écouté, d'être impliqué, qui a la sensation de ce camionneur germanophone qui se sent citoyen pris au sérieux, est-ce que ce même camionneur va-t-il se mettre des cornes de viking et attaquer en torse nu le Capitole? Je crois pas. Tout ça, cette agression, cette violence qui fait peur, vient des gens malheureux, qu'on n'aime plus. Notre système manque d'amour, je trouve. Il y a beaucoup de violence dans notre système actuel. Le système électoral actuel est un système assez violent. Il y a beaucoup de violence symbolique. Et le néolibéralisme, qui est peut-être encore beaucoup plus responsable, est un système qui avait la promesse « Ah, on va créer du bien-être et des produits pas chers pour tout le monde et tout ça. » Mais c'est un système profondément humiliant. Les inégalités ont augmenté. Les richesses au monde ont augmenté, mais la plupart des gens n'en ont pas profité. Et donc les gens se sentent profondément malheureux, ils aspirent à combler leur vie d'existentiel avec l'achat du brol, des produits qui ne valent pas grand-chose et qui sont confectionnés de l'autre côté du monde par des processus de confection et de production et de distribution qui tuent la planète. Mais des citoyens heureux, qui se sentent respectés, qui se sentent pas humiliés par le système économique et politique que nous avons actuellement, je pense pas qu'il va attaquer le Capitole. Et donc, investir dans la bonheur comme critère politique, je pense que c'est essentiel.
Investir dans l'amour et le bonheur comme valeur démocratique. Vaste programme qui mériterait sans doute presque toute une série en soi. Nous, c'est ici que l'on va tirer le rideau sur cette saison de Démocratie en question, version 2021. Merci, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était Démocratie en question, une production de La Première, avec à la réalisation sonore Jonathan Remy, à la prise de son Ariane Dufresne. Merci pour vos retours très nombreux sur ce rendez-vous. Vous pouvez encore nous envoyer vos mails pour nourrir nos réflexions pour de futures émissions à l'adresse démocratie@rtbf.be, démocratie sans accent et au singulier @rtbf.be. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous.